La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Ces derniers mois, des lieux d'art contemporain se sont intéressés à la faveur d'expositions originales à l'une des pratiques les plus originales aussi de la psychiatrie, née au mi-temps du XXe siècle, la psychothérapie institutionnelle. Et après les abattoirs de Toulouse qui ont consacré en 2021 une exposition au fondateur de ce courant, François Tosquel, c'est le Crack Occitanie de Sète qui proposait l'an dernier une exposition autour de la figure de Fernand Deligny, et maintenant, depuis quelques jours, le Palais de Tokyo à Paris où François Piron a conçu Toucher l'insensé, une exposition collective qui documente les liens des mondes de l'art avec ce courant psychiatrique. Et deux des artistes qui présentent des œuvres sont cette semaine les invités de la suite dans les idées, Agathe Boulanger et Carla Adra. Une émission, une seconde partie d'émission, dont la première revient avec l'historienne Camille Ropsis sur l'actualité de cette psychothérapie institutionnelle à laquelle elle vient de consacrer un important essai. Désaliénation politique de la psychiatrie, Tosquel, Fanon, Guattari, Foucault, c'est le titre de ce livre qui paraît aux éditions du Seuil. Bonjour Camille Ropsis.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes professeur d'histoire à l'université Columbia à New York, et donc vous continuez votre travail sur la psychanalyse, cette fois en vous intéressant à un courant bien particulier qui, j'ai insisté sur ce mot dans le chapeau, à une actualité. Vous faites un travail d'historienne et on va beaucoup parler dans cette émission de l'histoire de ce courant qui est au cœur de votre livre. Mais si vous choisissez de faire cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce courant, selon vous, résonne et qui nous permet de mieux penser l'articulation entre le psychique et le politique.
Oui, exactement. En fait, donc oui, je retrace l'histoire de la psychothérapie institutionnelle à travers certains personnages qui ont été présents lors de sa fondation, mais aussi d'autres qui ont été en dialogue avec le mouvement à travers le XXe siècle. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de penser l'actualité de la psychothérapie institutionnelle, non seulement du point de vue clinique, parce que comme en tant qu'historienne, j'ai du mal à mesurer quels sont ses effets thérapeutiques, mettons, mais aussi du point de vue politique, penser comment ce courant pouvait nous donner des outils, nous fournir des outils pour penser le rôle de l'inconscient dans la politique et pour penser aussi la politique de l'inconscient. Donc voir la conjonction de ces deux entités ensemble.
Pour vous, c'est un courant qui peut nourrir ce qu'on appelle la théorie politique, en fait.
Voilà, et j'appelle la psychothérapie institutionnel, un laboratoire politique, je crois, qui a créé des concepts qui peuvent nous aider à penser le moment politique dans lequel nous vivons. Et aussi, je crois, les institutions en général, puisque comme le nom le dit, la psychothérapie institutionnelle est un courant qui s'intéresse au rôle des institutions et qui dit justement que nous avons besoin d'institutions dans nos vies, donc que ce soit des hôpitaux, que ce soit des écoles, même des familles, le couple, mais que le problème de ces institutions, c'est qu'elles ont cette tendance de devenir hiérarchiques, oppressives, concentrationnistes, c'est le mot qu'utilise Tosquelles. Et donc comment garder ces institutions tout en mettant en place des mécanismes qui écarteraient ces possibilités.
Alors, c'est pas un hasard si cette dimension politique est présente, puisque ce mouvement naît à la faveur d'événements politiques considérables, la guerre d'Espagne et puis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Donc le contexte politique est vraiment déterminant pour la genèse de la psychothérapie institutionnelle. Un des noms les plus importants dans ce courant, c'est, comme vous avez dit, François Tosquelles, qui est un espagnol, un psychiatre espagnol qui est né au sud de Barcelone, à Reus, au début du siècle. Et en fait, Tosquelles était très actif dans un mouvement qui s'appelait le PUM, qui était un mouvement de gauche dans les années 30, qui en fait était était anti-stalinien, mais qui
marxiste et avec des liens avec le mouvement anarchiste aussi.
Exactement. Et qui prenait la décentralisation, le fédéralisme, et qui était donc très critique du tournant autoritaire qu'avait pris l'Union soviétique dans les années 30. Donc en fait, cette expérience dans le PUM a été très importante pour Toskaïev, puisque
jeune, parce qu'il était,
très jeune, étudiant. Voilà, il avait 24 ans. Et il fait des études de médecine, de psychiatrie, au même temps qu'il est dans le PUM. Et le PUM était aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais autogéré. Et ça, c'était très important. C'est-à-dire que la discussion, la critique permanente était encouragée. Et c'est cet esprit vraiment qui l'amène en France quand il arrive là-bas.
Il arrive en France donc à la faveur de l'exil, suite au coup d'État de Franco, à la guerre civile, et ça le conduit à quitter l'Espagne et à d'abord être accueilli, si on peut dire, dans un camp de concentration organisé par la République française pour accueillir tous ces réfugiés espagnols. Et là, il fait une nouvelle expérience politique, non plus celle d'un jeune étudiant en médecine qui choisit de faire de la psychiatrie, mais celle d'un réfugié qui continue, au fond, à faire de la psychiatrie, ou en tous les cas à observer cette institution très particulière dans laquelle il se trouve quelques mois.
Oui, voilà. En fait, il s'engage dans la guerre du côté des Républicains, du côté du PUM, et quand les forces franquistes gagnent la guerre, il s'exile en France et il est en effet placé dans ce camp dans le sud-ouest qui s'appelle Sept-Fonds. Et là, il commence à se rendre compte en fait que le camp même produit des effets psychiques. Donc, les conditions de vie dans le camp sont tout à fait déplorables. Les prisonniers, enfin, c'est pas des prisonniers, justement, des exilés qui sont traités comme des prisonniers, qui sont dans de la paille, sans chauffage, avec très peu de nourriture, des conditions sanitaires déplorables. Et c'est dans ce contexte, en fait, que Toskaïev essaye de se rendre utile et dit, ce serait bien de créer un service de psychiatrie pour traiter l'institution, le camp, et qui a donc ses effets concentrationnaires. Et de là provient le mot qui le suit dans toute sa trajectoire. Et en fait, comme il y a très peu de médecins qui sont présents, il commence à créer il fait de la psychothérapie institutionnelle, mais ça s'appelle pas comme ça encore, avec les autres détenus. Donc, il fait avec des musiciens, des artistes, des écrivains, et il monte des pièces de théâtre, des concerts, etc. Et il se rend compte que petit à petit, en fait, les gens vont un peu mieux. Et donc, c'est comme ça, en fait, que son nom commence à circuler un peu dans les milieux médicaux. Et que le directeur de Saint-Alban à l'époque, qui s'appelait Paul Balvé, l'appelle et lui dit de venir rejoindre son équipe médicale en Lozère, donc à l'hôpital de Saint-Alban.
Alors cet hôpital de Saint-Alban, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une réalité de la psychiatrie française. On n'est pas très loin, au fond, de ce qu'on a décrit dans une émission récente de La Suite dans les idées avec l'historien Anatole Lebras, qui vient de consacrer un livre aux aliénés à partir des dossiers d'hôpitaux en Bretagne et à Paris. Finalement, au milieu du XXe siècle, on n'est pas très, très, très loin de ce qu'il décrivait s'agissant du XIXe siècle.
Exactement, oui. En fait, déjà, la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi la spécificité du fait que le régime nazi prône l'eugénisme et l'extermination de ce qu'elle nomme comme les malades incurables. Et donc, en Allemagne, on assiste à 200 000, je crois, morts d'handicapés. Et en France, il y a tout un débat historiographique sur est-ce que Vichy avait une politique d'extermination ou pas, mais le fait est qu'il y a 40 000 patients qui meurent.
Ils meurent plus lentement, mais...
Voilà, ils meurent plus lentement, mais ils meurent quand même. Ils meurent de manque de soins, de manque de chauffage, etc., de manque de nourriture. Donc, en fait, les psychiatres de Saint-Alban sont vraiment révoltés par cette situation et mobilisés par cette situation, et ils se disent, en fait, que l'idée que la psychiatrie soit une espèce de science détachée du politique est absurde, puisque la psychiatrie est prise dans la politique. Et puis qu'il y a aussi une dimension du fascisme, puisqu'ils sont tous, en fait, dans le cas de Toskaïev avec l'héritage de Franco, mais les autres, les Français qui sont résistants, donc contre l'occupation, contre le régime de Vichy, se disent qu'il y a aussi une dimension presque psychique du fascisme, c'est-à-dire que le fait de collaborer nécessite une certaine disposition d'esprit. Et là encore, la psychanalyse peut nous offrir des outils intéressants pour penser cet état.
Alors la psychanalyse précisément, parce que là on a donné le contexte historique général, guerre d'Espagne, seconde guerre mondiale, mais il y a un contexte qui est celui de l'histoire de la médecine, de l'histoire des idées aussi, qui est considérable, puisque il est psychiatre, Toskaïev, il est psychiatre, mais il s'intéresse à la psychanalyse depuis le début. C'est un grand lecteur de Freud, autant que de Marx, dites-vous, à part égale, en quelque sorte. Mais il ne s'arrête pas à Freud non plus. Il est un grand lecteur de la psychanalyse contemporaine, celle en particulier de Jacques Lacan, qui va être une des sources de ce courant de la psychothérapie institutionnelle.
Exactement. Tosquelles disait toujours que Marx et Freud étaient les deux jambes de la psychothérapie institutionnelle, parce que quand l'une marche, l'autre doit suivre. Il lit Freud. Bah, à cette époque, Barcelone est souvent appelée une petite Vienne, donc il y a beaucoup d'exilés d'Europe de l'Est, donc la psychanalyse est assez vibrante, mais en plus, ce qu'il lit surtout, c'est Jacques Lacan. Et donc là, on parle des tout premiers textes de Lacan, on parle surtout de sa thèse des années 1932, qui est une thèse justement sur la psychose, sur la paranoïa. Et Lacan dit que, en fait, donc Lacan qui est psychiatre de formation, et dit que, en fait, je trouve que ce livre peut être lu comme un espèce de manifeste pour une nouvelle psychiatrie qui dit que, en fait, la psychiatrie ne doit pas seulement incorporer les notions de psychanalyse, mais doit vraiment s'ancrer dans la psychanalyse pour proposer une théorie du sujet qui prenne en compte l'inconscient, le social, les autres, etc. Donc pour Tosquelles, la lecture de Lacan est tout à fait fondamentale, et pour ses amis aussi, et à Saint-Alban. Et donc ils essayent de pratiquer une psychiatrie qui est ouverte à la psychanalyse, ce qui n'était pas évident parce que la psychiatrie était vraiment très portée sur le déterminisme biologique, essayer de trouver la source de tous nos problèmes dans le cerveau. Mais ils sont aussi très intéressés par une psychanalyse qui est ouverte à la psychose, ce qui n'était pas nécessairement le cas à l'origine, puisque Freud... pour Freud, la psychanalyse avait du mal à traiter des patients psychotiques puisqu'ils avaient une autre relation au langage, et donc la cure par la parole que Freud avait inventée pour les névrosés, selon lui, marcherait moins bien avec des patients psychotiques.
Et en fait, c'est ça que Lacan va remettre en question. Exactement. Et derrière lui, ce courant de la psychothérapie institutionnelle, notamment. Oui. Alors, ce lieu Saint-Alban va être un lieu très important, le lieu de naissance, peut-on dire, véritablement. D'abord, c'est là que le nom va s'inventer. Comment s'invente-t-il, Camille Ropsis ?
Ce sont en fait plusieurs médecins, dont Lucien Bonafé, par exemple, qui est résistant, marxiste, Tosquelles, Paul Balvé, le directeur de l'hôpital, qui commencent à mettre en place un nombre de pratiques, et après se disent ce serait bien qu'on offre une théorie qui regroupe ces pratiques, mais c'est vraiment une théorie et une pratique qui s'articulent ensemble.
Ça, c'est l'une des caractéristiques importantes de ce courant, c'est-à-dire que théorie et pratique ne sont pas deux dimensions séparées, elles s'articulent toujours.
Toujours, c'est-à-dire que la théorie est vraiment basée sur émerge de la pratique, mais au même temps, la pratique est toujours théorisée, est toujours pensée à l'avance. Et donc, c'est comme ça que le nom vient un peu plus tard dans un journal médical, mais
la réalité...
La réalité est là, exactement.
Et là, dans ce lieu où beaucoup de gens vont se croiser, c'est-à-dire ces figures qui peuplent votre livre, Tosquelles, mais Frantz Fanon, Félix Guattari, mais aussi Houry, sont des gens qui vont à un moment ou à un autre passer plus ou moins de temps à Saint-Alban.
Voilà. Et oui, donc il y a des médecins qui y sont. Il y a aussi des... c'était pendant la guerre, il y a l'historien des sciences philosophe Georges Canguilhem qui est là pendant un mois ou deux.
Résistant également,
qui connaît Bonafé du Maquis, et il a un rôle très important en fait dans le développement de la psychothérapie institutionnelle, puisqu'il est en train d'écrire sa thèse Le normal et le pathologique, qui deviendra son livre, où il pense justement la folie comme peut-être une autre forme de vie et la relation entre le normal et le pathologique.
Grande inspiration pour Michel Foucault, qui est la dernière figure, mais on y viendra après dans votre livre, que Georges Canguilhem. Grande inspiration pour Pierre Bourdieu aussi, bien évidemment.
Exactement. Donc il y a des philosophes, et il y a aussi des artistes, donc Paul Éluard qui est là pendant la guerre, et des surréalistes, et évidemment pour les surréalistes s'intéressaient beaucoup à la folie, puisque justement c'était une autre perspective, une autre vision contre le monde absurde dans lequel nous vivons. Donc tous ces gens se retrouvent à Saint-Alban et commencent en fait à travailler ensemble, et c'est de là que naît cette expérience.
Alors, deuxième figure par ordre d'apparition dans votre livre, Frantz Fanon, qui lui aussi va faire un stage à Saint-Alban, qui lui aussi s'intéresse aux écrits de Lacan, et qui... Il y a ça en commun avec tout ce qui est, c'est la jeunesse quand même. Ce sont des gens qui, très jeunes, écrivent des choses très importantes.
Oui, enfin moi quand je...
Ça m'a frappé en
moi
vous.
Moi aussi, non. Peau noire, masque blanc, il écrit vraiment très très jeune. Quand on
Avant pense... de terminer sa thèse de médecine.
Exactement, c'était sa thèse en fait, c'était sa thèse
de médecine. Il aurait voulu en faire une thèse.
Il aurait voulu en faire sa thèse et il a proposé, Fanon était étudiant en psychiatrie à Lyon, il propose ce livre comme sa thèse et évidemment son directeur de thèse lui dit il n'est pas question, donc il écrit un truc un peu plus technique, Mais en fait, Fanon est déjà tout à fait conscient du fait que le racisme et le colonialisme ont des effets psychiques. C'est ce qu'il explore dans ses premiers textes, donc dans Peau noire, masque blanc, mais aussi dans des textes qu'il publie dans la revue Esprit à l'époque, comme le syndrome nord-africain. Et en fait, quand il arrive à Saint-Alban... Il arrive un petit peu par hasard parce que il a des amis qui connaissent Paul Balvé, donc il arrive à Saint-Alban dans les années 50 et en fait ce qui est très il est frappé par le fait que les découvertes pratiques de Toscaïès rejoignent ces théories autour de la relation entre le politique, le social et le psychique. Et donc il s'investit complètement dans l'expérience de Saint-Alban et après son premier poste est en Algérie, à Blida, et il amène la psychothérapie institutionnelle avec lui et donc essaye de la pratiquer en Algérie.
En Algérie jusqu'à ce qu'il décide de partir, et vous passez quelques pages sur un texte pas forcément si connu que ça de Frantz Fanon, qui est sa lettre de démission qu'il envoie au commissaire, au gouverneur, je ne sais plus son titre, Robert Lacoste.
Lacoste, oui.
Et dans lequel il explique pourquoi il quitte ce poste et il va ensuite travailler en Tunisie, Camille Ropsis.
Oui. En fait, ce qui se passe avec Fanon, c'est très intéressant parce que, donc, comme vous dites, le texte n'est pas très, très connu. Maintenant, heureusement, nous avons le recueil de Jean Calfat, le merveilleux recueil de Jean Calfat et de Robert Young, où les textes psychiatriques de Fanon étaient connus, mais pendant un moment, ils étaient juste à l'IMEC, donc il fallait aller les chercher. Mais il y a un texte de Fanon, qui en fait, qu'il écrit avec un de ses internes, Jacques Azoulay, et il se rend compte que la psychothérapie institutionnelle marche très bien avec les patients. Il a deux sections, une section de femmes d'origine européenne et ça marche très bien, mais avec les patients hommes musulmans, ça marche pas du tout. Les effets désirés ne sont pas là. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il repense les bases de la psychothérapie institutionnelle et se rend compte que ce qu'il faisait, c'était de la psychiatrie presque impérialiste, appliquée en tant que telle, et qu'il fallait justement la repenser dans ce contexte, la remanier pour ce contexte colonial. Et donc, il change certaines de ses expériences pratiques. Et ensuite, il va en effet en Tunisie où il travaille dans un hôpital de jour et il finit sa vie.
Il
meurt très jeune, exactement, d'une leucémie. Mais je ne m'étais pas vraiment rendu compte avant d'écrire ce livre, c'était le fait que ces écrits politiques sont vraiment, les deux côtés d'une même entreprise, en fait, entre les écrits politiques et les écrits psychiatriques. Donc, le matin, Fanon dictait ses textes politiques, par exemple, Les Damnés de la Terre, entre 7h et 9h du matin à sa secrétaire, et le reste du jour, il voyait ses patients. Donc, je crois que dans ma tête, c'était beaucoup plus séparé, alors que quand on relie Fanon, les écrits politiques, avec cette grille de lecture psychanalytique, psychiatrique, ça change un peu tout, je crois.
Et ça permet de comprendre à quel point il y a cette articulation qui vous intéresse et qui est au cœur du livre sur psychique et politique.
Exactement, voilà.
Là, on a là de manière très, très concentrée. On s'en rend compte aussi avec une politique, cette fois, institutionnelle, en quelque sorte, la manière dont un lieu qui va devenir très important, aussi important que Saint-Alban, la Borde, trouve naissance dans Saint-Alban. C'est-à-dire qu'au fond, d'une institution naît une autre.
Voilà, c'est en fait Laborde né de ces gens Houry qui achètent le château de Laborde après son stage à Saint-Alban, et il est interne aussi là-bas, et il décide, en fait il prend quelques patients avec lui, et puis il décide de s'installer dans ce château, et c'est en effet donc sa cour Chevenier, c'est un peu plus près de Paris, et Houry continue la psychothérapie institutionnelle, avec toujours en relation avec Tosquelles et les autres personnes de Saint-Alban, mais je crois que la proximité à Paris entraîne aussi une certaine le monde intellectuel parisien s'enthousiasme beaucoup pour Laborde dans les années 60 surtout, et la figure la plus une des figures les plus connues mettons qui sont passées par Laborde, c'est Félix Guattari, mais il y a aussi eu, comme vous disiez au début, Deligny, François Pin, des metteurs en scène, des artistes, des philosophes et des psychanalystes qui en fait cohabitent avec les patients et vivent avec eux et pense la folie ensemble.
Jean Houry, c'est intéressant aussi, et vous le faites, de revenir sur sa socialisation politique, parce qu'au fond, ce sont des choses partagées avec ces autres figures. Ce sont des gens qui vont passer les années 30 dans une certaine ambiance politique, dans une certaine gauche, qui est celle des aubergers jeunesse en particulier. Son frère, qui va s'intéresser à l'école, va aussi créer, Fernand Houry, un mouvement de pédagogie institutionnelle. Et ça va être, c'est assez rare pour le souligner en France, puisqu'il a été oublié après, un grand lecteur de John Dewey, par exemple.
Oui, de Dewey, et d'ailleurs la pédagogie institutionnelle évolue un peu pas à pas avec la psychothérapie institutionnelle. Il y a beaucoup de personnages qui vont d'un côté à l'autre, et
des figures comme Célestin Freinet.
Exactement, comme Célestin Freinet. Mais en fait, les principes sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que prendre en compte l'inconscient collectif d'une classe ou d'un hôpital, essayer d'étudier les lois symboliques, voir comment le transfert opère. Examiner les relations de pouvoir, etc. Donc, je crois que s'ils se rejoignent sur plusieurs niveaux.
Alors, Laborde, c'est Jean Houry, mais c'est aussi, et d'ailleurs, vous consacrez votre chapitre à Laborde plutôt à cette figure, Félix Guattari, qui est, pour beaucoup de gens, connu comme le co-auteur, avec Gilles Deleuze, de deux livres importants pour ce courant et pour la rencontre entre la philosophie et la psychothérapie dans un contexte politique particulier qui est celui de l'après-mai 68, Camille Rupsis.
Oui, exactement. Donc, en fait, moi, dans le livre, je lis l'Anti-Oedipe, qui est un livre difficile que j'enseigne toujours, justement, avec mes étudiants. Et je crois que le fait de le comprendre en dialogue avec la psychothérapie institutionnelle est assez utile, ou m'a été utile, tout au moins. Donc Deleuze et Guattari commencent à écrire l'Anti-Oedipe, qui est publié en 72, mais dans l'après-mai 68. Et une des raisons qui les pousse à écrire ce livre, c'est ce qu'ils appellent d'essayer de penser la révolution avortée de 1968. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu tout à coup ce jaillissement de désir spontané qui a été réprimé par les politiques, les syndicats, etc. Et donc ils s'intéressent à ça, et la raison qu'ils proposent, c'est l'oedipanisation de la société, mais aussi de nos inconscients à nous tous. Je crois que c'est une manière de parler de l'aliénation. La psychothérapie institutionnelle utilise plus le mot aliénation, mais aliénation sociale et aliénation psychique, qui est en fait au cœur de l'Anti-Oedipe.
Vous consacrez la fin du livre à une figure qui est pas directement rattaché à ce courant de la psychothérapie institutionnelle, qui est la figure de Michel Foucault, mais qui vous permet de clarifier un certain nombre de choses, parce que souvent, quand on connaît pas bien, on a tendance à ranger la psychothérapie institutionnelle dans le même sac que l'antipsychiatrie, que des mouvements de psychiatrie ou radicaux, en quelque sorte, de ces mêmes années. Or, il y a des vraies différences, et réfléchir à la relation de Michel Foucault à ces questions vous permet de mieux voir les choses, Camille Ropsis?
Oui, l'antipsychiatrie, évidemment, partage une idée que la psychiatrie doit être politique avec la psychothérapie institutionnelle. Donc, ils se rejoignent, les deux courants se rejoignent sur ce point-là, mais sont très différents de nombreux autres points, notamment sur l'idée que la maladie mentale n'est qu'une création sociale pour beaucoup d'antipsychiatres, comme par exemple Lang et Cooper en Grande-Bretagne, Basaglia.
En Italie.
En Italie, exactement. C'était avant tout une réaction sociale, familiale, contre l'oppression. Et donc, l'idée, c'était de la désaliénation, passer d'abord par une désaliénation culturelle. Pour des gens comme Mouri ou pour Tosqueyès, c'était un peu absurde de dire ça parce qu'il y avait vraiment une spécificité médicale de la psychose. Ce sont des médecins après tout, et donc c'était justement dans l'interaction entre le médical et le politique où il pouvait y avoir une action intéressante, mais ne pas oublier le côté médical. En plus, l'antipsychiatrie a été s'est beaucoup intéressée, a fermé des institutions, puisqu'on pense à Basaglia, le but c'était de fermer les hôpitaux, de fermer les institutions, et pour la psychothérapie institutionnelle, au contraire, il fallait utiliser les institutions et comme vecteur de soins et soigner les institutions, mais non pas les fermer. Donc sur ces points, il y avait vraiment des divergences très importantes. Foucault est très intéressant. Au début, quand j'ai commencé ce livre, je pensais pas qu'il allait avoir un chapitre à lui tout seul, puisque il n'est ni psychiatre ni psychanalyste, donc il est un peu bizarre dans l'organisation du livre. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il était vraiment très intéressé par la.
C'est presque un prisme pour vous.
Exactement.
En fait. Dans ce chapitre. Ça vous permet de comprendre des choses, notamment dans le dialogue avec Robert Castel, qui est important et qui va amener une critique d'une certaine psychanalyse en France dans ces années 70, critique qui sera saluée par Michel Foucault et qui s'inscrit dans le sillage d'un autre sociologue important de l'institution psychiatrique, qui est Irving Goffman.
Exactement. Donc, Foucault, en fait, s'est beaucoup intéressé à la psychothérapie institutionnelle, à la psychiatrie. Son premier poste était d'ailleurs en psychologie. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour beaucoup de psychiatres de l'époque, il y avait le Foucault avant 68 et le Foucault après 68. Et le Foucault d'avant 68 était le Foucault qui était, comme il l'appelait, un des nôtres. Et après 68, il y a eu cette espèce de coupure, parce que je crois que c'était pas tellement à cause de Foucault, mais plutôt de l'utilisation qu'ont fait les gens surtout d'histoire de la folie. Et donc, par exemple, sa relation avec Castel. C'est Castel qui a amené Foucault à la première réunion du GIA, donc du groupe Information Asile, qui était...
Sur le modèle du GIP, hein,
exactement,
du groupe Information
sur le modèle prison. Du GIP, donc pour les prisons, et Foucault commence à dialoguer avec les antipsychiatres français, parce qu'il y a aussi eu tout un courant de antipsychiatrie française, et là les psychiatres, beaucoup de psychiatres, en fait trouvent que Foucault va un peu trop loin et qu'il l'appelle même psychiatricide, c'est-à-dire que l'histoire de la folie revient à ne prend pas en compte la spécificité de la folie, en fait, qu'il voit ça juste comme une construction sociale qui peut être, ou un effet de pouvoir qui peut être donc détruite par un renversement du pouvoir.
Vous choisissez de terminer votre livre en réfléchissant à ce qu'est l'actualité de ce courant, non pas son actualité au sens de sa présence dans le monde psychiatrique, mais de l'actualité de ses concepts et plutôt de l'originalité de l'articulation entre sa pratique et sa théorie. Et vous dites au fond, c'est un courant qui invite à toujours produire le commun, toujours produire le collectif. Et en cela, vous le rapprochez du travail sur les communs précisément de Dardot et Laval.
Oui. L'idée de soigner l'institution, c'était aussi de produire un nouveau commun, de produire un collectif. C'était très important pour toute la psychothérapie institutionnelle de ne pas penser qu'il s'agissait d'un modèle qu'on allait appliquer partout. Au contraire, le modèle devait jaillir des conditions données et devait donc évolutionner selon les contextes. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était la formule d'Oury que j'aime beaucoup, c'est ne pas laisser en passer une. C'est-à-dire que dès que l'on pense qu'on est désaliéné, qu'on a réussi, il faut se remettre en question. Il faut remettre en question ces tendances autoritaires qui menacent de l'intérieur le collectif. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le dialogue avec Dardot et Laval très intéressant. Et tous ces mouvements qui en fait n'ont pas des mouvements comme Occupy, comme Nuit Debout, etc., qui ont vraiment essayé de penser le collectif, le commun, différemment, et de voir comment l'inconscient pouvait être utile dans cette conversation avec le politique.
La pratique artistique est centrale à ce courant de la psychothérapie institutionnelle. Vous l'avez mentionné à différentes reprises, mais on va y revenir plus en détail avec des artistes dans la seconde partie de l'émission, Agathe Boulanger et Carla Adra qui nous rejoignent. Mais c'est après un extrait du nouvel album de Hooray for the Riff Raff, Oak Moon.
La suite dans les idées, Sylvain Brumeau. In the bus, I sleep all day. In the back, I am. Everybody wants to know my name. I give just a sliver to them. That's the way. That's the way. I've been taught I am. Anything, anyway. I drink a fifth.
On parle de psychique et de politique à la suite dans les idées cette semaine. On parle de psychothérapie institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle qui est l'objet d'une exposition collective qui vient d'ouvrir au Palais de Tokyo sous le titre « Toucher l'insensé ». On parle de tout ça à propos du livre de Camille Ropsis qui est l'invité de l'émission « Désaliénation » qui paraît aux éditions du Seuil. Et avec deux artistes qui participent à cette exposition collective, Carla Adra qui est avec nous à distance et Agathe Boulanger qui est avec nous autour de la table dans le studio. Bonjour Agathe Boulanger.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes donc artiste, mais vous êtes aussi infirmière dans le domaine de la psychiatrie depuis longtemps, depuis plus longtemps qu'artiste en fait.
Infirmière depuis plus longtemps et la psychiatrie, je l'ai rejoint plus tard après avoir fait un parcours intra-hospitalier et puis dans le social.
Alors comment vous êtes retrouvée dans cette exposition collective proposée par François Piron ?
Alors curieusement, c'est pas à l'école d'infirmière que j'ai entendu parler de la psychothérapie institutionnelle. C'est pas là-bas qu'on m'a enseigné ce versant de la psychiatrie. Et c'est plus tard, quand j'ai fait une école d'art, puis un post-diplôme donc aux Beaux-Arts de Lyon, qui était dirigé par François Piron, qu'au cours de nos conversations, il m'a parlé de la psychothérapie institutionnelle, qui était un de ses domaines de recherche déjà depuis quelques temps. Et qui a ouvert pour moi une nouvelle manière non seulement de concevoir l'art, mais aussi ma pratique en tant que soignante, que j'ai décidé du coup de maintenir tout en entamant une pratique artistique et j'ai essayé de déplier un petit peu ce fil en essayant d'aller voir du côté de la board, du côté donc de la psychothérapie institutionnelle au sens large, en allant faire un diplôme universitaire à l'Université de Paris, et puis aussi en essayant de voir un petit peu les ponts qu'il pouvait y avoir entre le monde du soin, mais aussi le monde de l'art et de l'art contemporain. Et donc, on est allé avec Signe Frédéricsen et Jules Lagrange rencontrer notamment Laurence Rassel pour entamer avec elle un livre d'entretien, qui était une biographie romancée, qui s'appelle « Ce que Laurence Rassel nous fait faire ». Et donc, voilà, c'est une sorte de recherche à la fois entre la pratique artistique et le soin qui s'articule autour de la psychothérapie institutionnelle.
On revient sur la manière dont vous liez les deux tout de suite, mais je voulais donner la parole aussi à Carla Adra. Bonjour.
Bonjour.
Vous également, vous êtes présente dans cette exposition collective. Qui présentez-vous ?
Alors, moi, je présente « Parole chaude », qui est une exposition en fait que j'avais déjà montré ces pièces, mais elles ont été revisitées là spécialement pour cette exposition, et je les avais montrées à la galerie de Noisy-le-Sec. Donc j'ai travaillé en collaboration avec l'Institut médico-éducatif Henri Vallon, qui est à Noisy-le-Sec, et dans le cadre de la résidence que j'avais faite. En fait, j'ai voulu travailler avec des personnes de l'IME et des personnes aussi de l'institution artistique, enfin de la galerie, et aussi avec des gens de la mairie de Noisy-le-Sec. Et en fait, de faire un travail où on va se rencontrer, on va faire sortir des mots, du langage, pour arriver à se connecter. Et en échangeant aussi nos rôles, nos places, pour arriver à se comprendre, à se rencontrer. Et du coup, j'ai déployé des formes plastiques à la fois autour du tissu, du mot, fabriqué des pots, en fait, qui pourraient correspondre à chacune des personnes et qu'on puisse les interchanger. Donc, c'était vraiment un travail de la rencontre.
Rencontre entre des personnes et rencontre aussi entre des institutions, vous disiez, à la fois des institutions politiques, la mairie, des institutions de soins et artistiques.
Oui, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir inverser en fait des endroits qui seraient plus reliés aussi à un pouvoir, enfin à une fonction où en fait des personnes d'un IME ne vont pas se retrouver dans un bureau administratif. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en fait si ce sont les personnes qui sont dans l'IME qui se retrouvent derrière le bureau, et qu'en fait ce sont les personnes de la mairie qui viennent et qui sont reçues par... Et en fait, comment des dispositifs juste spatiaux, enfin voilà, et qui ont en fait eux un pouvoir, et qui ont en fait un pouvoir sur les gens et sur nos manières d'agir, et ben comment en fait quand on change ces choses-là, ben on peut aussi changer le rapport à l'autre et se dévoiler aussi peut-être d'une manière plus intime. Et c'est aussi dans cette intimité en fait qu'on arrive à se connecter, je trouve.
Et si vous avez eu l'idée de ce projet et que vous l'avez mené à bien, c'est aussi parce que vous aviez été sensibilisé à cette psychothérapie institutionnelle ?
Alors oui et non, je pense que c'est vraiment par association de rencontres et de enfin je connais un peu le ce mouvement, enfin disons la théorie, enfin voilà, j'ai appris aussi son histoire, oui voilà, mais j'ai commencé vraiment à travailler sur l'injustice de manière un peu générale, mais aussi juste en rencontrant des gens qui me parlaient d'injustice qu'ils avaient vécu, et en rencontrant une femme qui travaillait dans cet institut médico-éducatif, elle m'a dit ben ces personnes en fait elles portent l'injustice en elles, et du coup on a commencé à travailler ensemble, et après c'est là où on m'a parlé de la psychothérapie institutionnelle, on m'a parlé de tout ça qui m'a du coup passionnée, mais qui arrivait en même temps. Et aussi, la psychanalyse, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, mais voilà, tout ça, c'est relié.
Agathe Boulanger, vous, à la fois, vous produisez des œuvres, des travaux artistiques, mais vous utilisez l'art, ou vous pratiquez l'art, plus exactement, dans le cadre dans le cadre institutionnel du soin, en fait, à ouais. Paris, et dans cette tradition-là, et c'est pas forcément évident de continuer à faire ça aujourd'hui, j'imagine. Vous le faites avec des adolescents.
Voilà, je travaille dans un service de pédopsychiatrie avec des adolescents qui s'appelle le CIAPA, qui se trouve dans le 18e arrondissement à Paris. C'est une petite structure dans laquelle je travaille en tant que soignante. Donc, je suis vraiment infirmière là-bas. Je suis pas artiste intervenante, mais c'est un endroit dans lequel il y a de la place pour créer et puis pour penser des dispositifs avec donc l'équipe et les adolescents, et dans lequel notamment on a monté donc avec un psychologue, un éducateur, un infirmier et le groupe d'adolescents un labo photo qui a lieu une fois par semaine et qu'on a conçu depuis la manière de penser son espace, donc qui est dans le sous-sol, qui était d'abord dans le 13e arrondissement, puis ensuite on a déménagé les locaux, mais donc c'était un espace qui était un ancien vidoir, une ancienne réserve, et puis qu'on a commencé à aménager. Et l'idée, c'était de pouvoir penser ensemble les images, la manière de les faire. Donc, c'était une production artistique, mais qui était très collective et qui n'était bien sûr pas en mon nom. Mais c'est ce qui me semblait intéressant aussi dans la psychothérapie institutionnelle, c'est que ça redistribue. Enfin, c'est ce que disait aussi Jean-Henri, c'est comment chaque jour repenser ses rôles, ses statuts et ses fonctions dans le cadre de la société, de notre travail. Et donc là, mon statut sur ma feuille de paye au CIAPA, c'est infirmière, mais dans les faits,
les choses sont toujours.
Voilà, c'est beaucoup plus fluide, et c'est ce qui m'intéresse aussi dans cet espace où effectivement l'idée, c'est de ne pas écraser les désirs de chacun, et c'est comment être soignant, pas uniquement par son diplôme, mais comment partager cette fonction soignante, que ce soit dans le public soigné, hein, qui porte cette fonction-là, ou dans le public soignant, avec ce qui fait ce qu'on est, en fait, avec notre subjectivité, d'où on vient, quelle est notre culture professionnelle, mais aussi qu'est-ce qui nous anime dans la vie, que ce soit l'art, le théâtre, la philosophie. Voilà.
Camille Ropsis, ça vous semble vraiment s'inscrire dans cette histoire que vous racontez, au fond?
Oui, j'étais très intéressée par l'exposition et par l'œuvre de ces artistes. Mais là, quand Carla et Agathe parlaient, je pensais aussi au concept de Guattari qui s'appelle la grille, qui l'a beaucoup théorisé en fait à la Borde. Mais l'idée de Guattari, c'est qui était assez génial, c'était de mettre donc un emploi du temps avec les horaires de la journée et le nom de tout le monde, les patients, mais aussi les infirmiers, les médecins et tout le monde tournait. Donc c'est-à-dire que un jour on faisait la pharmacie, l'autre jour on faisait le ménage, le troisième jour on faisait de la cuisine, et donc justement Guattari parlait de ça comme un instrument de désorganisation pour éviter la routine bureaucratique, et justement d'éviter ce que vous auriez appelé comme des mois égoïsés, des petits royaumes où on serait justement la mairie ou le malade, ou donc de changer ses rôles. Je crois que c'est très important, encore une fois, pour utiliser les termes que avaient développé, de créer des groupes sujets qui puissent énoncer leurs propres règles, leurs propres lois, et non pas des groupes assujettis par des forces externes. La formule de Horry, je crois, que j'aimais beaucoup, c'était que le plus fou de tous, c'était un directeur qui se prenait pour un directeur. Donc il fallait que justement tout le monde remette en place leur propre position, que ce soit l'artiste, les malades, etc.
Carla Adra, vous disiez le projet que vous présentez dans cette expo collective est lié à une résidence, à un lieu particulier. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à travailler sur ces dimensions, sur la psychothérapie de manière plus générale et les liens avec votre pratique artistique ?
Oui, enfin, mon travail il est très relié au fait de faire des liens, de faire rencontrer des gens, d'inverser des rôles, des situations. Donc c'est vraiment... Même quand j'étais en résidence, en fait, j'avais aussi carte blanche pour faire ce que je voulais. Et c'était de mon propre chef que je suis allée travailler avec un institut médico-éducatif. C'était pas dans un cadre non choisi, au contraire. Donc en fait, moi, j'aime bien aller souvent à la recherche aussi de groupes ou de personnes qui, pour faire des groupes, ou alors un groupe peut-être déjà existant, mais ça peut être à la fois des personnes, des inconnus dans la rue, et choisir de faire un groupe de ces personnes d'inconnus, mais ça peut aussi être avec des proches ou avec des personnes dans une institution spécifique, comme dans des EHPAD aussi. Enfin, en fait... c'est aussi en fonction des rencontres que je vais faire et des envies aussi qui arrivent au cours de la vie et de ma curiosité vers l'échange, quoi. Donc oui, c'est quelque chose que je continue. Ça fait partie de ma pratique, en fait.
J'ai commencé l'émission en notant qu'il y avait récemment des expositions consacrées à la psychothérapie institutionnelle ou à certaines de ces figures, des expositions d'art contemporain, pas des expositions d'histoire des idées, au fond. Et peut-être ça témoigne du fait que la présence de ce courant est plus forte dans le monde de l'art aujourd'hui que dans celui de la psychiatrie. Alors vous, Agathe Boulanger, qui avait un pied dans chacun de ces univers, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, en tout cas, c'est vrai que le monde de l'art s'est imprégné et beaucoup inspiré de cette pratique-là, de cette pratique de la psychiatrie, et de manière, inversement, la psychiatrie va chercher aussi, va puiser aussi dans l'art de manière quotidienne. Enfin, donc ça a été des intérêts partagés. Deligny parlait de l'art comme horizon, donc qui n'était pas la pratique de l'art forcément en soi, mais qui était comme un horizon. Sans que ce soit forcément un but, mais qui était en tout cas très présent. Donc, je crois que ce qui intéresse aussi dans la pratique chez les artistes, en tout cas cette forme de psychiatrie, enfin de la psychothérapie institutionnelle, c'est aussi la manière de concevoir le collectif et du coup de repenser aussi ce que c'est qu'être artiste et ce qu'est être artiste aujourd'hui. Et du coup, c'est avoir une idée d'un collectif qui va être très éloigné de la pratique de l'artiste dans son atelier, mais qui va pouvoir faire en sorte de maintenir quelque chose de vivant.
Merci Agathe Boulanger, merci Carla Adra. Je rappelle que l'exposition collective à laquelle vous participez s'appelle Toucher l'insensé et qu'elle est présentée au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 30 juin de cette année. Merci à vous Camille Ropsis. Je rappelle le titre de votre livre « Désaliénation politique de la psychiatrie ». Il paraît aux éditions du Seuil. On trouve les références du livre et le lien vers l'exposition aussi sur la page de La Suite dans les idées où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'est la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, à la technique aujourd'hui Florent Bujon, à la réalisation Anne-Laure Chanel.